You then are the media.
You now are the media. Are the media.
Find out who you are at CKUT 90.3 FM.
Descent through sound.
Descent through sound.
You.
Descent
through sound.
Looking for media descent and
its reflection.
You. Descent through sound.
Join us for general orientation every third Thursday, 12, 3, and 6 p.m.
3647 University, CKUT 90.3 FM.
Oh, they're very shrewd. I must say, they're really quite remarkable in their ability to use the media.
Pledge resistance!
What's up? This is Saul Williams chilling here in Montreal, here on CKUT. Peace.
We pledge alliance with those who have undergone attack for voicing opposition to the war.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Neolabs, la ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
Salut! Bienvenue à votre podcast juridique préféré « Touche pas à mes droits » de la Clinique juridique de Saint-Michel en collaboration avec le Forum jeunesse Saint-Michel, Neolabs, la ville de Montréal. Donc, bienvenue à notre 9e émission de l'année et notre 2e émission, dans le fond, de la session d'hiver. On est vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude, on va parler de profilage racial. Je m'appelle Lina, je vais être votre host aujourd'hui et je suis avec mon collègue Ali. Comment ça va, Ali?
Ça va super bien, Lina, et toi?
Super! On est vraiment content d'avoir des invités vraiment remarquables aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on va avoir Maître Fernando Belton, qui est un avocat criminaliste, cofondateur de la clinique juridique de Saint-Michel, ainsi que Mana Chouker, qui est elle une étudiante en droit, ainsi que la coordonnatrice du comité profilage racial de la clinique juridique de Saint-Michel. Et finalement, on a aussi Maître Yeboah, qui est un criminaliste également. Donc, ça va être une conversation fort intéressante et on est vraiment content d'être avec vous aujourd'hui.
Donc, merci à tous pour d'accepter notre invitation et à partir de notre émission et parler du profilage racial. Comme dirait Iba, une des bénévoles à la clinique, le profilage, c'est le sujet de l'heure, mais la réalité de toujours. Donc, aujourd'hui, l'émission est particulière. Nous allons discuter à propos d'un projet cousin à celui-ci du profilage racial et ensuite à notre invité, Maître Yeboah, qui nous parlera de son expérience et sa perspective en tant que victime de profilage racial et avocat. La dernière émission, nous avons fait une mise en situation de profilage et cette semaine, on a une source première.
Okay, donc, on va commencer tout d'abord avec les questions pour Maître Fernando et Manard. Donc, on sait très bien que la clinique juridique de Saint-Michel s'engage à être un allié très fort dans la lutte contre le profilage racial. Donc, on aimerait un peu vous nous parler du travail du comité profilage racial et qu'est-ce que vous faites day-to-day avec le comité.
Donc, merci Nina pour ta présentation du début. On est ravis d'être là aujourd'hui. Dans le fond, le comité profilage racial joue un rôle clé à la clinique en ce qui concerne la lutte au profilage. Donc, c'est une équipe de 12 étudiants qui vont accompagner des victimes de profilage racial dans la rédaction de plaintes à la commission en déontologie policière, à la commission des droits de la personne et aussi dans tout ce qui est processus de dénonciation par rapport au profilage racial. Donc, aussi, ces étudiants-là ont des projets spéciaux sur lesquels ils travaillent très, très fort, comme des chaires de recherche en partenariat avec l'Université d'Ottawa. Ils ont certains autres projets comme l'organisation du marathon, le fameux marathon de la clinique de Saint-Michel que vous connaissez tous. Ils ont certains autres projets tels que une recherche sur le profilage racial chez les Autochtones avec Maître Eve Aoun et une certaine étude jurisprudentielle qu'on va bientôt publié sur le site internet de la clinique.
Ce que je rajouterais, Lina, d'abord, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. Je me rappelle, je suis venu au premier épisode. On peut voir que Touche pas à mes droits a grandi. L'idée aussi avec le comité, c'est que ces étudiants-là aujourd'hui qui sont étudiants qui travaillent sur des dossiers vont avoir tout au cours de leur parcours touché à beaucoup de dossiers. Ils vont avoir compris les concepts, ils reçoivent des formations. Donc l'idée aussi c'est que quand ils seront devenus des avocats au jour numéro un, ils vont avoir un bagage d'expérience qui est très important en termes de lutte contre le profilage racial, de savoir comment le mécanisme fonctionne. Et je leur ai dit, j'espère qu'ils m'entendent ce soir quand je leur dis, j'espère au moins que la moitié, le trois quarts ou 100% des étudiants-là continuent à s'impliquer à la clinique une fois rendus avocats, prennent des dossiers eux-mêmes, de sorte qu'on puisse avoir une nouvelle ordre d'avocats quand ils arrivent dans la pratique au jour numéro un, qu'ils soient capables de pouvoir faire une différence en ce sens.
Et donc, suite à ces projets, l'analyse, en fait, toutes les études qui se passent avec le projet profilage racial, J'imagine que ça aide surtout les étudiants, les futurs avocats, à déceler l'odeur du profilage racial dans les différents cas. Est-ce que vous avez plus d'informations de comment c'est possible de faire cette analyse, comment on peut regarder les différents cas et juste voir...
Être en mesure de faire, je vous ai décrit comment une interpellation normale se passe. Mettez à côté de ça comment beaucoup de personnes racisées vivent leur interpellation. Ça veut dire de un des personnes souvent qui se font contrôler pour aucune raison. On va essayer de voir est-ce que comment c'est quoi les paroles qui ont été prononcées, c'est quoi les raisons qui vont, c'est quoi la réelle raison de l'interception. Et souvent vous allez voir que dans le cas où est-ce que les choses dégénèrent, on va peut-être décider d'arrêter les gens, de les menotter, puis après ça on leur dit ben vous pouvez partir parce qu'en fait il y avait pas de raison pour l'interpellation. Le profilage racial c'est une discrimination qui est indirecte et la raison pour laquelle souvent des policiers vont interpeller des personnes, c'est simplement basé sur la couleur de leur peau. Ça n'a aucune raison et ça n'a aucun motif qui découle de l'application générale du code de la sécurité routière ou d'avoir constaté une interception. On voit un profil type d'une personne, monsieur noir qui conduit un certain type de véhicule, une personne racisée, une personne arabe, une personne autochtone, et on décide, à cause de la couleur de sa peau ou de son allure, de l'intercepter. Et c'est ce qu'on dénonce, et c'est comme ça qu'on est en mesure de voir ce que oui ou non il y a un profilage racial. On le compare avec, en fait, une interpellation qui devrait être de routine, quelque chose de banal souvent.
Puis le truc que souvent Fernando nous donne en tant qu'étudiant, parce qu'on fait beaucoup de formations là-dessus, qui sont fort intéressantes et vraiment enrichissantes, il nous dit, est-ce que si une personne blanche aurait été mise dans les mêmes circonstances, est-ce que le résultat aurait été le même? Donc je pense que quand on se pose cette question, on peut savoir s'il y a eu profilage ou pas.
C'est un bon point, Léna, puis je vais juste enchérir là-dessus. L'idée, c'est que moi, j'ai constaté au courant de ma pratique, les personnes blanches ne sont pas interceptées, ne sont pas traitées par la police de la même façon que les autres personnes. C'est aussi simple que ça. Même, vous savez que quand on parle des enfants, on déshumanise l'enfant parce qu'on le voit comme un noir ou un arabe ou un autochtone et on oublie que certaines interpellations, quand vous voyez le langage que des policiers vont employer envers des enfants, vous voyez que tout ce qu'ils voient, c'est la couleur de sa peau. C'est pas l'enfant qui est devant soi. Donc, c'est un bon point que tu amènes là-dessus.
C'est comme si on devient enfant... On devient adulte un peu trop vite là, quand on est racisé. Et puis, ça m'emmène justement à parler d'un cas réel, dans le fond, de profilage. C'est la ville de Montréal contre Baptiste. C'est un arrêt qui est très fort en termes de profilage. Le juge Richmond, il explique que notre droit à la liberté d'expression protège nos réactions face à des situations d'injustice. Donc, en d'autres termes, on a le droit de crier à l'injustice. On a le droit d'être fâché si on se fait arrêter pour rien, si on se fait... s'il y a une violation de nos droits, on a le droit de crier à l'injustice. Donc, j'aimerais juste savoir un peu un tour de table. Qu'est-ce que vous en pensez de manière générale?
Je vais laisser Manon aller d'abord.
Ben, moi, je suis 100% d'accord avec le juge qui a prononcé ça. Je trouve que c'est, comment dire, une lueur d'espoir un peu qui nous lance en l'air. Avec toute la jurisprudence qu'on peut lire, dans le fond, un juge qui vient dire ça, je trouve que, mais dans le fond, c'est comme un espoir de plus qu'on nous lance. C'est tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que les policiers qui abusent, qui ne respectent pas la charte canadienne, qui est supposée de nous protéger, de protéger nos droits, il faut que si nos droits sont bafoués, il faut qu'on soit capable de s'exprimer face à ça. Donc, le fait que même si nos droits sont bafoués, qu'on doit devoir rester silencieux seulement parce qu'on est face à un policier, une autorité de l'État. Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Dans n'importe quelle situation, les droits sont toujours avec moi. C'est quelque chose d'immatériel qui est avec nous tout le temps, en tant que citoyen, en tant qu'humain. Donc, pour moi, s'il y a un policier ou pas, si jamais on voit nos droits bafoués, eh bien, on peut crier autant qu'on veut parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'envier à quelqu'un.
Léna, je vais... Désolé, vas-y, je m'excuse.
Non, j'ai juste demandé à Maître Yebois s'il voulait ajouter quelque chose par rapport à ça.
Bien sûr, c'est sûr que souvent les lois sont genre, les lois comme la charte sont édictées pour protéger les plus faibles, vous voyez? Et quand vous voyez qu'un simple citoyen face à des policiers, mais la bataille est inégale. C'est un simple citoyen qui va contre les policiers. Les policiers, ils ont la ville qui les protège. Ils ont un syndicat très fort qui les protège. Monsieur, madame, tout le monde n'a pas cette protection. Alors la charte est là, en sorte que tu peux te retourner un peu pour contrebalancer la différence de l'inégalité qui existe entre ces deux. Alors c'est normal qu'un juge cite ça, parce que si les citoyens n'ont pas aucune avenue pour se protéger, ou bien pour proclamer l'injustice, ou aller parler contre ça, mais ça devient que les policiers... C'est une bataille inégale, vous comprenez? C'est les policiers, ils vont toujours avoir un genre de puissance envers la population. C'est ça que je voulais ajouter.
Je vais lire le premier paragraphe de cet arrêt-là, okay, qui dit tout. Le juge Wishman dit « La conduite par une femme d'un véhicule appartenant à un homme n'est pas un motif valable d'intercession et protester contre le profilage racial n'est pas une infraction. » Pour moi, c'est un mic drop juste comme ça. L'idée, c'est que dans cet arrêt-là, c'est une femme noire qui est en train de conduire un véhicule. Le policier va dire « Ben, la raison pourquoi j'intercepte madame d'abord et avant tout, c'est parce qu'elle conduit le véhicule qui appartient à un homme. » Et c'est ce qu'on essaie de trouver quand on essaie de prouver du profilage racial. C'est une preuve indirecte, souvenez-vous. Donc, c'est un prétexte qu'on utilise pour, par la suite, trouver une vraie raison pour, en fait, donner une contravention à un citoyen. Et là, madame s'est mise à protester. Elle s'est mise à dire, ben, monsieur, moi, je pense que je suis victime de profilage racial. Et c'est ce que le juge Wishman dit. Puis c'est un juge qu'on aime beaucoup à la défense parce que, il faut le dire, puis je l'ai dans tout respect pour notre chère magistrature, très peu de juges ont, de un, cette sensibilité-là, de un, de deux, ont envie de en fait, comprennent assez bien le concept d'une preuve indirecte, parce que ce qu'on est, on est toujours en train de chercher souvent dans les dossiers un lien de causalité. Ça veut dire, quelqu'un a commis une faute et voilà comment ça s'est réglé. Mais dans les dossiers de profilage racial, on n'a pas ça souvent. Donc, il faut avoir ce courage-là de pouvoir le dénoncer. Puis c'est pour ça que cet arrêt-là qui a été rendu en 2009, je trouve qu'il est important. Et ça renforce le droit des citoyens de pouvoir se tenir en face d'un officier et de protester. Protester veut pas dire que tu collabores pas, mais c'est d'avoir ta liberté d'expression pour dire je suis une victime, puis je suis obligé de toujours rester dans le silence.
Oui, exactement. En fait, le lien de causalité, c'est une des premières choses qu'on apprend en droit à l'école, en fait. Donc, c'est vraiment ancré dans le système juridique qu'on a, surtout au Canada. Mm-hmm. Et en fait, on a déjà parlé pour les auditeurs récurrents, on a parlé de Baptiste contre la ville de Montréal le dernier podcast, et c'est là qu'on avait parlé du concept de l'intersectionnalité. Et ça s'applique vraiment dans tous les principes de l'État. Donc, surtout dans le système juridique aussi, il ne faut pas traiter un cas de profilage de la même façon qu'on traiterait juste un cas régulier à cause de toutes ces preuves indirectes et juste tous ces principes qui ne sont pas matériels et les biais inconscients et tout. Et juste avant, on avait, Monsieur Maître Hubois, vous avez mentionné l'inégalité que la police a contre l'individu et aussi un autre rond de table. À quel point le pouvoir discrétionnaire de la police peut aller? Parce qu'on parle souvent de les gens se font interpeller pour n'importe quelle raison. C'est quoi les limites à ces pouvoirs?
Au fond, même s'ils ont un pouvoir discrétionnaire, c'est quand même couvert, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Son pouvoir discrétionnaire doit être, comment on dirait ça, ça doit être raisonnable. Mm-hmm. Vous comprenez, ça ne peut pas ne pas être déraisonnable. On ne peut pas partir d'un simple ticket pour, avoir fait de la vitesse à noter quelqu'un. Il y a une là ta discrétion est un peu trop loin. Puis souvent les policiers, on dirait quand il s'agit des gens racisés, c'est là que tu vois que le pouvoir discrétionnaire est un peu plus élargi. C'est un peu plus mais quand il s'agit des personnes blanches, je dirais on dirait que le comportement ou envers eux change. Là, ils appliquent les normes qu'ils doivent appliquer et ainsi de suite. So, c'est plus ça, c'est pas pouvoir discrétionnaire à faire ce qu'ils veulent. Le cours a quand même encadré le pouvoir discrétionnaire de la manière qu'ils doivent être utilisés.
Absolument, puis ça m'amène à penser ça dans le fond. Ce genre de situation d'injustice, ça mène ultimement au fait que les personnes racisées, il y a comme un bris de confiance entre les personnes racisées et les institutions. Donc, comment est-ce qu'on peut, en tant que société, je parle autant des personnes racisées que des personnes non racisées, donc comment est-ce qu'on peut, d'un, être un vrai allié pour la cause? Parce que moi, même si je suis personne racisée, je ne suis pas une personne noire. Donc, il y a beaucoup de choses que moi-même, j'ai du privilège là-dedans. Donc, comment est-ce qu'on peut être des vrais alliés, premièrement? Et comment est-ce qu'on peut, en tant que société, retravailler ce lien de confiance entre les personnes racisées et les institutions d'État?
l'idée, c'est la suivante. Okay? Moi, je pense qu'on est aujourd'hui dans un cercle vicieux. Il serait difficile de pouvoir briser la chaîne, puis je vais l'expliquer de la façon suivante. On a, par exemple, dans certains endroits à Montréal et au Québec, un bris complet de confiance entre les citoyens et le service de police. Il faut comprendre que la police, son mot d'ordre, c'est quoi? C'est de dire qu'on est là pour protéger et servir. Donc, vous êtes, en fait, au service des citoyens. Vous êtes là pour les protéger et pour pouvoir les servir. Quand un policier, par exemple, applique le code de la sécurité routière, il devrait le faire dans une pensée puis dans un but de protection du public. On protège les gens en s'assurant que tout le monde respecte la loi. C'est un peu ça l'idée. Mais quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe maintenant quand dans certains secteurs, il y a des interpellations répétées et il y a un bris de confiance qui arrive envers le service de police? Les gens qui se font intercepter, même lorsque l'interception est correcte, même quand tout se passe bien, ils se disent « j'ai été profilé ». Que ce soit à tort ou à raison, OK? Le policier, lui, qui intercepte le citoyen, comprend pas pourquoi le citoyen, par exemple, le traite de raciste ou s'exprime en disant avoir été victime de profilage racial, parce que dit, ben, si t'es blanc, t'aurais intercepté exactement de la même façon. C'est sûr, ça évacue des fois la question des biais inconscients. Mais si on met ça à côté, ce cercle fait en sorte que la police sait plus comment traiter avec certains citoyens. Les citoyens font plus confiance à la police et la roue tourne comme ça. C'est pour ça que je pense que c'est un changement complet de paradigme qu'il faut avoir, une nouvelle façon de comprendre de un le rôle de la police. Et c'est pas aux personnes qui sont victimes, à mon sens, de trouver la solution à la place de l'oppresseur. Parce que ça fait pendant longtemps, ça fait depuis les 40, 50 dernières années au Québec, à Montréal, qu'on a des morts qui s'accumulent, qu'on a des victimes qui s'accumulent, et malgré tous les rapports qui ont été écrits, malgré toutes les recommandations qui ont été faites, on est encore dans un statu quo où est-ce que, en fait, c'est même pas un statu quo, moi j'estime qu'au cours des dernières années, il y a une recrudescence des cas au niveau du profilage racial. Donc, moi je pense que les alliés doivent dénoncer, parler, partager, se positionner par rapport à où est-ce qu'ils sont dans ce débat. Renzold, qui est un de mes amis, dit toujours, on veut pas des gens qui disent qu'ils sont pas racistes, on veut des gens qui disent qu'ils sont antiracistes, qui sont activement dans la... Puis c'est pas nécessairement de prendre la bannière, de se promener dans les manifestations, mais c'est au moins, au minimum, de prendre position par rapport au débat et de dire, mais nous, on veut que ça cesse. Et je pense que le fardeau du changement repose sur les personnes qui doivent décider et sur les gens qui profilent. Parce que nous, comme personnes qui... Je veux pas prendre la cause en tant que nous qui sommes là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà, de manière très claire, dit voilà de quoi on est victime. Et aujourd'hui, c'est aux autres de pouvoir amener le changement.
Absolument. Puis je suis vraiment d'accord avec ça, le fait que les alliés doivent se positionner face à ça. Je trouve que c'est vraiment important. Je vais laisser Ali continuer avec notre prochaine question.
En fait, j'avais juste un petit lien à faire avec ça. Je me demandais si le comité profilage racial, en tant qu'analyse jurisprudentielle, juste former des futurs avocats, si vous croyez aussi que ça va aider à briser ce cercle vicié en fait, qu'on parlait.
Ben, si je peux parler, moi je trouve que oui. Dans le fond, comme Fernando il a parlé tantôt par rapport aux liens de confiance, je trouve que je suis vraiment d'accord avec ça dans le sens où c'est pas normal que des personnes, des jeunes aujourd'hui, disent même qu'ils ont peur de la police. Comme c'est même plus... La police ne représente même plus une institution qui est là pour protéger. Ça fait littéralement un effet contraire. Les gens qui sont racisés ont des fois même peur. Il y a des dossiers qui arrivent ici à la clinique juridique où la personne, elle a peur de porter plainte en déontologie. Mm-hmm. Juste récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça fait 3 ans, je suis pas capable de faire une plainte en déontologie. Il y a un sentiment de peur. Donc, clairement, c'est du côté de l'oppresseur qui doit avoir un changement. Comme ce que Fernando a dit, et d'un autre côté, le comité, je pense qu'en donnant des outils, en les accompagnant, on leur montre que il y a une façon de dénoncer, il y a une façon d'agir, et de donner une assurance, et comme ça, la prochaine interception qui arrive, mais la personne va avoir plus de courage pour dire « Hey, moi, toi, là, je vais te dénoncer en déontologie. Hey, moi, là, je vais sortir mon téléphone, je vais te filmer. » Ça va comme travailler un peu plus, malgré que, comme Fernando a dit, moi, je trouve pas que c'est à la victime d'aller régler tout ce problème de profilage racial, mais quand même, l'accompagnement qu'on fait, c'est de l'information qu'on donne aux personnes racisées pour mieux comprendre c'est quoi leur recours puis comment ils peuvent agir avec les policiers pour justement moins avoir peur face à ça.
Juste là-dessus, j'aimerais rajouter quelque chose. Oui. Je vais vous donner un cas type, OK? Une personne qui reçoit un cas qu'on a, par exemple, un citoyen reçoit une contravention de 150$ pour avoir jeté sa bière ou pour avoir consommé de l'alcool dans un parc. Nous, on pense que cette personne était victime de profilage racial, notamment parce que, un, on a une défense à faire valoir sur le fond. Ça veut dire qu'il consommait de l'alcool, mais oui, mais avec de la nourriture, ce qui est permis dans un parc. Et de deux, au niveau de la question du profilage racial, c'était la seule personne noire qui était dans le cercle. Il y avait environ 4 à 5 personnes blanches. C'est le seul qui le reçoit en contravention. Pourquoi c'est lui qu'on décide de viser parmi les autres? Maintenant, le problème est le suivant. Avec une amende de 150$, est-ce que cette personne-là peut décider d'aller engager un avocat pour défendre sa cause? C'est compliqué. Parce que moi, par exemple, si quelqu'un vient me voir pour un ticket, comme je veux dire, si dans un cas normal, je dis paye ta contravention. À moi, est-ce que tu veux vraiment te battre pour la question du principe? Maintenant, avoir un avocat qui vient avec toi à la cour, rédiger une requête en excusant de la preuve pour faire valoir tes droits, etc. Facilement, la facture peut monter jusqu'à 1 500$, tandis qu'on parle d'une contravention de 150$. À ça s'ajoute aussi le fait que beaucoup de criminalistes, et je le dis, c'est pas un reproche, c'est une question stratégique, plaideront pas à la question du profilage racial. Parce que si, quand, comme criminaliste, qu'est-ce que tu veux? Tu vas essayer de voir c'est quoi tes meilleurs, c'est quoi la meilleure stratégie pour ton client. Et si t'as une défense à faire valoir sur le fond de fraction, peut-être qu'au niveau de la violation des droits, tu serais prêt à laisser tomber parce que tu penses qu'il y a une autre façon de faire acquitter ton client de manière plus facile. Et c'est là que le comité prend tout son sens. C'est là que le comité, je pense, a un impact parce que on va prendre des dossiers où est-ce que, moi, même si c'est une contravention pour un ticket de parking, pour un stationnement, je suis prêt à aller plaider la question du profilage si je pense qu'il y a eu profilage. Et en même temps, je pense que les étudiants qui sont au sein du comité, qui auront été outillés, seront très à l'aise. Contrairement à moi, quand je venais de commencer ma pratique, ben, quand on me parlait de profilage, j'étais vraiment très réticent à aller plaider ce genre de cause-là parce que, justement, on parle toujours du fait que la preuve est difficile à faire. Mais je pense que c'est un changement de mentalité au sein même des gens qui vont exercer cette profession-là par la suite parce que eux auront vu ces dossiers-là puis seront très à l'aise de pouvoir dire, ben, puis d'analyser un dossier puis voir c'est quoi du profilage racial et aller le plaider devant la cour, peu importe quoi l'infraction.
Absolument. Puis je pense que c'est là que comme tu as dit, que le comité nous donne tout son sens. Puis je pense que vraiment, les cliniques juridiques, tout ça, tout ce qui sert un peu l'accessibilité à la justice, c'est vraiment des outils dont on a besoin. Donc, j'aimerais juste vous remercier pour avoir pris le temps de parler avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment contente. On va prendre une petite pause maintenant et ensuite, on va faire l'entrevue avec Maître Yeboah. Donc, j'aimerais vraiment remercier Maître Fernando Belton ainsi que Manar Choukair pour leur participation. Merci beaucoup.
Bien, merci pour l'invitation. À la prochaine.
Merci.
Touche à mes droits. Donc, on a eu une conversation super pertinente avec Maître Belton et Manar Choukair du comité profilage racial et avec Maître Yeboah. Et on va continuer notre entrevue avec Maître Yeboah maintenant. Donc, comme je vous avais dit, on a Maître Yeboah qui est une victime de profilage racial. Et donc, je vais vous donner une petite mise en situation, une mise en contexte de qu'est-ce qui s'est passé il y a une semaine. Donc, il circulait au centre-ville accompagné avec sa fille de 15 ans. Pour récupérer une commande de restaurant. Assez normal, on a tous fait ça. Et, son téléphone sonnait, sa fille répond. Quelques instants plus tard, les policiers leur demandent d'immobiliser leur voiture. Donc, déjà là, il y a des questions particulières qui vous ont été posées. Juste même avant de vous informer des motifs de votre arrestation, à qui appartient l'automobile? Où allez-vous? Juste des questions un peu agressives déjà là, on commence pas bien. Après avoir tendu votre permis aux policiers, il manquait le certificat d'assurance ainsi que l'immatriculation, comme c'est l'auto de votre femme, et vous ne savez pas ça se trouvait où, c'est ça?
Exactement.
Et pendant le temps que vous êtes en train de chercher toute l'information, deux autres autopatrouilles rejoignent la première. Donc, il y a six policiers en ce moment, juste pour
pour être interpellés.
Exactement. Donc, suite à ça, vous trouvez les papiers et vous êtes menottés et mis à l'arrière de votre voiture.
Pas de ma voiture, de leur voiture.
De leur voiture, encore pire. Donc, pendant tout ça, les policiers vous ont fouillé votre téléphone et vous leur avez même expliqué que ça contenait de l'information à vos clients protégés, puis vous êtes avocat. Et qu'est-ce qu'on appelle le secret professionnel? Donc, c'est qu'est-ce que vous, pour les auditeurs, qu'est-ce que vous pensez qu'un médecin ne peut pas juste parler de votre information personnelle à n'importe qui? C'est la même chose avec un avocat. Et quand vous avez expliqué ça, les policiers, ils ont juste ri. Ils ont complètement invalidé cette situation. Donc, on a appris que ça s'est finalement mitigé un peu quand ils ont trouvé votre carte du barreau dans votre portefeuille. Et donc, est-ce que vous avez vu le moment où ce que ça a changé dans les yeux des policiers quand ils ont vu et réalisé que vous étiez avocat, même après qu'ils avaient invalidé toute cette situation?
Au fond, j'étais noté derrière le véhicule. Je les voyais fouiller mon portefeuille. So, je le voyais venir déjà dans ma tête. So, la première carte qu'il a sortie, c'était la carte d'assurance maladie. Mm-hmm. Ensuite, il a sorti ma carte d'étudiant du barreau. Okay? Après, il sort ma carte de membre. Puis là, je pense ils se sont regardés. Puis le policier qui venait, c'est comme si à ce moment-là, il a réalisé, je pense que tout ce que ce monsieur-là nous dit est vrai. Mm-hmm. Tu vois? Alors, ils sont ressortis du véhicule. Puis ils sont allés en caucus entre eux, dehors, les six. Je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Là, il revient dans le véhicule, tout ça. Je suis encore menotté derrière le véhicule. Puis là, il me dit, écoute, si tu vas pas être trop fâché, on va t'enlever le menotte et on va te donner un ticket pour avoir eu ton cellulaire. Je dis, mais tu penses pas que j'ai toutes les raisons pour être fâché? C'est pas normal, qu'est-ce que vous faites? Menotte, tout ça, pour me donner un ticket pour un cellulaire devant ma fille, ça n'a aucun sens.
Et six policiers,
pourquoi? Six. Tu sais, ça, la loi ne les empêche pas d'être 10 dans une intervention. Même si pour moi, je trouve que c'est de l'intimidation, vous voyez. Mm-hmm. Mais la loi ne les empêche pas. Mais la loi les empêche de menoter un citoyen qui n'a rien fait. Mm-hmm. Je n'étais pas aucun danger pour eux, absolument rien du tout. Je n'ai pas agi avec eux de manière agressive. D'ailleurs, dans les vidéos, vous pouvez voir, je tempérais avec eux. Ce n'était pas de manière agressive, quoi que ce soit.
Mais justement, c'est ça aussi qui m'a choqué aussi quand moi j'ai vu la vidéo, c'est... Comment vous avez fait pour garder votre sang-froid? Comment, dans une telle situation, surtout vous êtes avocat, après avoir entendu premièrement des remarques désobligeantes à votre égard, avoir reçu une attitude qui est condescendante, rire de vous quand vous dites que vous êtes avocat, comment vous faites pour garder votre calme si vous voyez toutes les infractions, toutes les choses qui ne devraient pas être, se passer devant vous? Comment vous faites?
Quand il m'a mis les menottes en premier, les quatre sont venus sur moi, puis le premier m'a mis les menottes. Moi, tout de suite, mon instinct était de survivre parce que je ne voulais pas me faire aucun geste brusque, rien de qui avait l'air comme si je voulais me battre avec eux. Puis ma fille était là. Ouais. Je me dis, bon, si quelque chose m'arrive, pas devant elle. Mm-hmm. Je ne veux pas, elle va être traumatisée à vie si quelque chose m'arrive. Alors moi, dans ma tête, j'étais plus en mode de survie. Écoute qu'est-ce qu'ils disent, fais ce qu'ils veulent. On va régler ça après. Mm-hmm. Tu vois, puis si j'ai un conseil à donner à quelqu'un et à tout le monde, si jamais il se trouve dans la même situation, c'est absolument important juste d'écouter, obtempérer, même si vous savez que vous êtes dans vos droits, puis c'est après la bataille, mm-hmm. pas à ce moment-là, ça. Quand c'est un peu excité.
Donc, vous sentez que vous avez un peu sacrifié quelques vos droits pour votre vie, en fait, pour votre sécurité.
J'ai sacrifié, je savais que c'était ce qui faisait être pas correct. Mm-hmm. Mais en même temps, je me suis dit, bon, ça va empirer. À ce moment-là, j'essayais de me débattre ou quoi que ce soit avec eux. Eux, ils étaient six. J'étais seul avec ma fille. Ouais. Ma fille, elle n'allait pas pouvoir me défendre contre les policiers. Puis, c'est juste normal que je les écoute. OK, non, derrière le dos. J'ai le droit de garder le silence. Mais par-dessus la voiture, ils me fouillent. OK, vous voyez? Puis, c'est après que moi, maintenant, je mène cette bataille. Mm-hmm. Parce qu'une autre personne, probablement dans ma situation... un peu plus agité, un peu plus combatif.
Ça aurait été
complètement tourné à une autre histoire, je vous l'assure.
Mm-hmm. Mais c'est vraiment horrible aussi d'avoir un peu... On a parlé de ça une fois dans une des émissions du Talk, que les parents font à certains enfants comme quoi, si la police t'arrête, tu dois être comme ça, comme ça, comme ça, parce que ta sécurité est en jeu. Puis justement, est-ce que... Tu sais, comment répondre quand un policier n'a pas l'air de te croire? Tu lui dis, je suis avocat, il n'y a rien, tout ça. Quelqu'un qui te regarde de haut... Est-ce que c'est ça que vous direz, c'est d'être, de rester calme, de rester posé, puis ensuite porter plainte?
Oui.
OK.
Et parce que sur le champ, tu es impuissant face à eux. Tu peux rien faire. Lui a le menotte, il a les fusils.
Ah, c'est lui qui a le fusil.
Vous pouvez rien faire. Ça sert à rien de se battre avec à ce moment-là. Mm-hmm. Mais une fois qu'il vous laisse, il est primordial de faire une plainte et de pas l'aider. Le plus de monde qu'on va faire des plaintes, le plus qu'ils vont savoir qu'il y a un problème. Mm-hmm. Le gros problème, c'est que souvent, depuis qu'on était jeunes, les policiers nous abusaient, ainsi de suite. Mais on allait chacun dans notre coin souffrir en paix. On faisait pas plainte. On acceptait. Ah, il m'a juste fait ça, c'est pas grave. On se plaint un peu à les amis, mais on fait jamais de plainte. Vous voyez? Mm-hmm. Je pense que cette année, ils sont rendus à 480 plaintes. Wow. Le jour qu'ils vont être rendus à... Hey, l'année passée, toute l'année, ils étaient à 480. Mais le jour qu'ils vont être rendus à 1000, 2000 plaintes par année, là, je pense que quelqu'un là-bas va dire on a un problème. C'est ça.
En fait, on parle souvent de victimes de profilage et porter les plaintes ensuite. Et un principe qu'on que quelquefois, on n'en parle pas aussi souvent, c'est les témoins, les personnes qui le voient se passer devant vous, devant eux. Quand vous avez dit votre fille était là avec vous, elle est en train de filmer, c'est ça?
Oui, au fond, moi, j'ai eu le réflexe de lui dire « film, film » parce que après ça, c'est la parole contre celui de 6 policiers. So, je lui disais « film, film ». Eux autres lui disaient « non, va-toi dans la voiture, sinon tu vas avoir des problèmes ». Mais la fille, elle a 15 ans. Elle ne sait pas qui écouter, son père ou les policiers. So, elle, à un moment donné, elle s'assoit dans la voiture. Puis là, elle m'entend crier « sors, film !» Elle sort. Puis eux, ils crient sur... Alors, c'est comme... Maintenant, c'est... Comment elle a, elle a 15 ans.
Ouais.
Dans à peu près un an, elle veut conduire. Et sa relation avec la police, ça va être une conversation que je vais devoir avoir avec elle.
Et comment est-ce en train de vivre cette situation?
C'est sûr, au début, les premiers jours, elle pleurait. Puis dans la voiture, elle pleurait. Puis elle disait, oh, est-ce que c'est comme ça à chaque fois que tu sors? Est-ce qu'ils font ça? J'ai dit, tu sais, j'essaie de lui dire, tous les policiers ne sont pas mauvais, mais ils ne sont pas. Mais d'un côté, comment je puisse lui dire ça? Ils étaient 6, il n'y a pas un qui a pu dire, écoute, on ne devrait pas faire ça.
Et tu ne sais jamais, ça va être lequel qui va.
C'est lequel, exactement. So, tu sais, j'essaie de parler, puis oui, elle va mieux, mais c'est plus de l'incompréhension. Elle ne sait pas. C'est juste dommage. Que je pense que c'est la première interaction avec la police et ça a dû être ça.
Exact.
J'aurais aimé que ça aurait été autre chose.
Puis c'est un gros sentiment d'impuissance que tu ressens à un âge comme 15 ans, t'es toute jeune, puis tu vois juste ton parent vivre une expérience comme ça. Tu te sens tellement impuissant, comme si tu n'as rien fait.
Oui, puis tu sais, moi je suis d'origine africaine et tout, puis nous, tu sais, l'image paternelle est un peu importante. Puis là, je vois ma fille qui me voit dans une situation vulnérable, une situation où je peux rien faire. Elle me voit comme... Tu sais, c'est un peu la honte, tu vois.
Ouais, absolument.
Puis c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. J'essaie de s'écarter du monde, puis... Oh, mais tu sais, ça va passer. Non, ça va pas passer. Ça va passer, oui, mais elle va être quand même traumatisée pour un bout.
Mais ce trauma peut aussi rester pour des générations.
T'sais. Oui.
En fait, il est resté pendant des générations. Aux États-Unis, il y a le concept de generational trauma, surtout provenant de l'esclavage et de tout ça. Puis c'est grave.
Oui, ouais. c'est...
Excusez.
Oh, vas-y.
Non, en fait, je voulais juste... poser par rapport à filmer les policiers, à quel point ils peuvent demander, ils peuvent te dire d'arrêter.
Il n'y a pas. La Cour suprême est claire. On peut filmer les policiers tant qu'on ne le dérange pas dans leur travail.
Absolument.
Ma fille le dérangeait en
elle était
rien
loin,
leur travail. Elle était loin dans le véhicule, à côté du véhicule.
Même sur votre
elle, oui, elle dérangeait en rien. Elle aurait pu leur filmer juste du début jusqu'à la fin. Ils n'avaient pas le droit de lui dire, tu n'as pas le droit de filmer. Et ils le savent, les policiers. Mais pour moi, ils ont su, une jeune fille... probablement elle sait pas, ils vont faire peur, puis sûr elle va aller s'asseoir dans la voiture si un policier lui dit tu vas avoir des problèmes.
Ben oui,
elle vient de me voir, me faire me noter, c'est sûr qu'elle va pas aller contre qu'est-ce qu'il lui dit.
Il s'attaque à sa vulnérabilité.
Oui.
Oui.
Mais c'est vraiment fou. Puis justement on parlait avec Fernando justement d'essayer l'odeur de profilage. Je pense qu'on en a parlé un petit peu. Est-ce que vous avez senti que c'était du profilage dès le début ou c'est à partir de quel moment que vous avez dit ok là c'est pas normal comme intervention?
Au fond, quand il m'a posé des questions, j'ai trouvé bizarre, mais j'ai pas fait grand-chose. Quand il est venu à mon véhicule en premier, la première question, c'est « Tu vas où ?»
Alors, ce qui est étrange comme question.
Mais même là, j'ai pas trop branché. J'ai dit « Bon, je trouvais que c'était bizarre, mais j'ai pas... » Je lui ai dit « Je m'en vais chercher la nourriture avec ma fille. » Après ça, il me dit « C'est à qui la voiture ?» Je dis « C'est à ma femme. » Puis là, il m'a posé une question. Puis c'est là, j'étais surpris. Il m'a dit « Est-ce que c'est elle qui est assise à côté de vous ?» Mais je viens d'étudier, je m'en vais avec ma fille prendre la nourriture, puis on est juste les deux. Pourquoi tu me demandes si c'est elle qui est assise à côté de moi? C'est là que j'ai trouvé il y a quelque chose. Mais quand il a pris mon permis puis il est parti avec, puis après il m'a mis le menotte pour me dire mon permis était faux. Là vraiment j'étais comme non, mais c'est pas possible. C'est ma face sous le permis. C'est là que j'ai dit non. Si j'étais Jean Tremblé et blanc, impossible que cette situation m'arrive. Impossible.
Absolument. Puis comme Fernando l'a dit juste avant. Le fait de conduire, comme dans l'arrêt Ville de Montréal contre Baptiste, le fait de conduire l'automobile de son conjoint, ce n'est pas un motif pour commencer à dire que ce que la personne fait, c'est louche. C'est parce que tu conduis l'auto de ta femme, de ton mari, qu'automatiquement, ding, 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 il y a quelque chose de louche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre.
Et après ça, il me donne le prétexte du cellulaire. Et même si tu voulais me donner un ticket pour un cellulaire, comment on finit par 15 minutes derrière une voiture d'autopatrouille notée? Il y a comme une disproportion dans la réaction qui ne marche pas. Si j'avais été violent ou quoi que ce soit avec vous, mais je méritais d'avoir une contravention pour avoir entravé au travail de policier. Ils m'ont jamais donné ça. Voie de fait sous police, ils m'ont jamais donné ça. Puis je sais pourquoi, parce qu'ils savent pas les vidéos que ma fille a pris. Vous garantissez que s'il n'y avait pas de vidéo, je serais parti là avec plus de tirs que ça.
Absolument, ouais. Absolument. Puis s'ils n'avaient pas vu que vous étiez avocat...
Avocat, ça aussi.
Est-ce que si vous n'aviez pas été avocat, qu'est-ce que vous croyez qui serait arrivé?
Ils m'auraient probablement amené au poste. Puis je ne sais pas, parce que au fond, moi, je trouve encore le mystère que mon permis de conduire était faux. Mais je sais même quelle enquête qu'il a fait. Mais je pense c'est quand il a fouillé les affaires puis il a vu mes choses. Il a dit bon, je pense pas que il va mentir, soit il m'a laissé là à ce moment-là. Peut-être un autre individu qui aurait pas été avocat, il l'aurait amené au poste pour faire plus d'investigations plus loin, perdre son temps, donc quelques heures dans une cellule, ça peut aller loin là.
Ben oui.
Est-ce que la police peut se fouiller dans ça?
Du tout. Et même si nous autres, au fond, il y a un concept vous devez comprendre. Il y a quelque chose. Le plus important dans notre métier, c'est le secret professionnel. C'est tellement important qu'on passe 2 à 3 jours à l'école du barreau juste sur la question. Parce que c'est la manière de protéger les citoyens et nos clients. Alors, même si les policiers ont un mandat pour mon arrestation, ils ont besoin d'un autre mandat parce que je suis avocat pour fouiller mes biens. Et c'est probablement pas eux. Il y a une manière, tout un processus. Mais même là, c'est je leur dis là, écoute, vous ne pouvez pas fouiller mes affaires comme ça, c'est couvert par le secret professionnel. Vous faites, je suis avocat, il rit, puis il continue à cœur joie à fouiller dans mon portefeuille, mon téléphone, puis ils savent qu'est-ce qu'ils font, c'est pas break, vous voyez, mais ils continuent quand même. Ils sont en train d'enfreindre la loi, mais vous êtes des policiers supposés de maintenir l'ordre et la loi, pas les enfreindre, c'est pas normal.
Absolument, absolument. Puis je pense que vraiment ça montre un peu les failles, parce que comme vous dites, Si vous n'étiez pas avocat, jusqu'à où ça serait allé cette situation-là? C'est là que ça nous prouve que dans le fond, quand on connaît nos droits, là, la game change. Là, c'est plus la même chose. Quand on connaît nos droits, tout d'un coup, on peut plus trop faire ce qu'on veut avec vous. Donc, c'est vraiment.
C'est sûr, les policiers, ils connaissent plus la loi que le coin des citoyens.
Ben oui.
Eux, ils le connaissent par cœur, la loi. Ils savent comment la contourner. Ils savent, tu sais, ils arrêtent des véhicules. Puis, ça ferait bien qu'ils ne sont pas supposés parler aux gens. Aux passagers, mais c'est toutes les manières de le faire.
Absolument. Ben, c'est ça qu'il faut vraiment. Puis je pense que, comme vous avez dit, plus on en parle, plus on fait de plaintes, plus à un moment donné, on va se réveiller en tant que société, puis dire, wow, il me semble que c'est pas normal. Puis comme vous dites, les 4 profilages, ça se ressemble tout le temps. C'est tout le temps une interception en auto, on trouve un prétexte, et puis après, ça voilà. Donc, c'est vraiment important d'en parler. J'aimerais vraiment vous remercier au nom de toute l'équipe de la Clinique juridique de Saint-Michel d'être venue aujourd'hui avec nous, de nous avoir parlé. C'était vraiment super intéressant, et puis on est vraiment très contents de vous avoir rencontré. Maître Bois, c'est un avocat criminaliste également, si je me trompe.
Oui.
Exactement, donc c'est son domaine de pratique, si on veut. Donc, on est vraiment contents de vous avoir reçu. Puis, on aimerait juste faire un petit remerciement à nos collaborateurs, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'était notre 9e émission du projet Touche pas à mes droits en collaboration avec la Ville de Montréal, le Forum Jeunesse de Saint-Michel, Néolabs, donc on a Zenga avec nous, ainsi que les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
Et comme toujours, vous pouvez écouter nos épisodes sur le site internet de la clinique à csjsm.ca/podcast ou sur Spotify également. Donc, soyez à l'affût de notre prochaine émission et on se rejoint pour un prochain épisode pour parler du profilage racial.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Néolabs, la Ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail.
À qui les donner? À nous les donner! Lorsqu'on ne paye pas pour un produit, on est le produit. Particulièrement dans le cas de l'hébergement des courriels et des sites web où les compagnies multinationales se battent pour les profits produits par les magnifiques communications de vos organisations. Kumbit est une coopérative de travail qui essaye d'aider les petites organisations ou les particuliers à se réapproprier leurs communications par l'hébergement de courriels et de sites web ainsi que par la création de sites web. Si c'est votre désir, contactez-nous à kumbit.org. ou par courriel à info@kumbit.org, kumbit.org. On n'est pas sur Facebook.
What, boy? Productions Nuit d'Afrique vous invite à célébrer leur 35e anniversaire en musique. Du 2 au 7 novembre, découvrez les 10 groupes de cette programmation spéciale sur la mythique scène du Club Balatou. Un événement anniversaire gratuit à ne pas manquer. Plus d'informations sur productionsnuitdafrique.com.
Merci beaucoup. Thank you very much.
Le Prison Radio Show est une émission radio avec des nouvelles pour les prisonnières et leurs alliés et familles. L'émission cherche à confronter l'invisibilité des prisons et la lutte des prisonnières en se concentrant sur la racine de l'incarcération, de la police et de la criminalisation. Nous sommes dédiés à des programmes qui collaborent directement avec des personnes actuellement incarcérées. Dans cet esprit, nous aimerions vous faire savoir qu'on a une ligne téléphonique pour les prisonnières et leurs amis et familles. Vous pouvez nous appeler Collecte de la prison de Bordeaux et de la prison Rivière-des-Prairies en composant le numéro 514-876-3748. Encore une fois, c'est 514-876-3748 pour les appels Collecte. On a aussi un numéro normal qui est 438-337-8423. N'hésitez pas à appeler ce numéro et à nous laisser un message avec des nouvelles à partager sur l'émission ou un message audio pour vos proches à l'intérieur.
Puisque ça fait plus d'un an qu'on le mentionne et que de toute façon vous le savez probablement déjà, on a décidé de ne pas vous le dire. Donc, on ne vous redira pas que pour se protéger de la COVID-19, il faut se laver les... On ne répétera pas encore une fois qu'il faut porter un... Et surtout, qu'il faut garder nos... avec les autres. Vous le savez, c'est la meilleure façon de combattre le virus, même lorsqu'on est vacciné. On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Êtes-vous locataire à Montréal? Avez-vous des questions sur vos droits? Votre comité logement peut vous aider. Pour trouver le comité logement pour votre quartier ou pour plus de ressources, visitez le www.rclalq.qc.ca.
Attention McGill undergraduate students. Referendum is upon us. Exercise your right to vote on questions that matter to you and your campus experience. Vote in the fall referendum period from Monday, November 8th to Friday, November 12th. Look for your ballot in your McGill student email between November 8th to 12th. Let's rock the vote.
What? My radio stuck on CKUT. I don't know. But nah, fix it. CKUT, the number one radio station in Montreal. We give you the sun, the moon, the rain, the stars and the mountain. CKUT give you the word.
I came, I saw, I see. And I tried to tell the children of Jah to take heed, my brothers.
Me no fan ten, nigga bad mind. Laugh in me face like a sunshine. Two shot delegate for me jump line. Then I want see me win, then I want mine. Only time till I hit up me hotline. Cause me no want give, no I want time. Chop up me soul in a two that a half time. Can't make no pussy cross over me guideline. When they ask me no day, yeah, who you try for shame around me neighbors. Call us bamboo in nature. When I need no gun for keep safe us. On a mission me day right now. Fi feed my granny and me mother how. If I chose that A force route, I probably would have been pon the DG grounds.
Now we can't go there. Life too short, bad man, I fi go well. No, we can't let judge any one who save us. Lucifer try to take, we cannot play us.
But not this all and take them way down. Way down, tell us that me been also from way young. Grill up with me granny, never miss one, me air strong. 8 years old, I'm me bad like a strong rum, boy. This year for my team. Grad send me mommy, they support my dream. Quit off, he walk on the clock time thing. Cause daddy can't pay no bill and buy me a drink. Ever to pick up the Glock 19. Nigga walk on the con and sell white thing. Whoa. Me out to ball under my sheets when the night times are come. Pray out to God so me get my family out of the slum. We a beg your father for take away the pain, let it just be done. Pray out to God so me get my family out of the slum. In my goal, yeah, mountain road of the solidest.
In my goal, yeah, mountain road of the solidest. In my goal, yeah, mountain road of the solidest. In my goal, yeah, mountain road of the solidest.
in my goalie, mountain road at the solid. Life too short, bad man, nothing go away. No, we can't get judge are the one who saved us. Lucifer try to take, we cannot play us. No, we can't go there. Life too short, bad man, nothing go away. No, we can't get judge are the one who saved us. Lucifer try to take, we cannot play.
Jellies. Me, I move on me top white killies. Couldn't even trust my widow. I know that she whipped me just for the pennies. Pretty and proper, that's Jenny. Get cash from me, bro, in a that telly. How could you do this to a man like me? Toxic, messy, and tidy. Should I listen to mom? Bag up the wrong thing out of many. It's crazy how life's not golden when jealousy and love gets fetty. Should I tell I money wasn't with it instead of playing for me like gimmick? Don't stretch it, done that thing. I'ma let you go right now, girl, dead it. Don't mind just being alone. I keep my keeps at home. My mind stays on her, but my soul stays in a lonely home. I'm on my LOK, still can't fuck with LUV. But she that PYT, still don't mind just being alone. I 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 still don't mind. Yo, I don't study them ting. I feel clean up me life that vim. Not too many boys go admit that toxic games come from within. The hardest time no win. Knocked out panic cost off that gin. I'm sorry, I'm sorry. I wanna be in love, no hurry. When we used to dip on that phone in a late night, man was silly but lucky. Top me, Tiffany, slot me, top girl, I ghost me, Chucky, Duppy. Rewind that time, panic rollie. I am a better man, that's for surely. Lost in an Angeles, I man met for me, that's only. Don't mind just being alone. I keep my keeps at home. My mind stays on her, but my soul stays in a lonely home. I'm on my LOK, still can't fuck with LUV. But she that PYT, still don't mind just being alone. I 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 still don't mind.
Don't mind just being alone. I keep my keys at home. My mind stays on her, but my soul stays in a lonely home. I'm on my LOK, still can't fuck with IUV. The shit at PYT, still don't mind just being alone. I 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 still don't mind.
In my ends, football player, the Jews man had from young. After man practice, Sadi stole me a grub, Kaya roof just get pelt down. Take off with a speed, come me fail to the vagrant man, get mad pan we cunt.
Scatter, scatter, run, me no say the enemy, I wish say we burn. Hold on the nigga, out of my girl, I go there with the flavor. Let me follow, she the wrong at the corner, better say she a live wrong at checker. Way I wait for my man take her, put me back out the sauce here later. Scatter, scatter, run, me no say me enemy, I wish say me burn.
Oh Lord, bad man, you say fire upon them.
We no game, but we no one say. Mash up the place like 9 morning. Inform our boy, feed them boy, we no represent. Can't come on me no way, you no match my element.
Me in my element, top shatter with the wanted hooligans.
My boat a yard like a pelicans. Me not so let me deal with the youth men. Not true, we attend no loose ends. When your soldiers are them pon the east end. Not this end, naga last pon the deep end. Put a boy in the shark hole tank like we see if he chat up like a big man. Nobody now move like I man. I'm broke out of them gorilla Tarzan. Hold on, call me the gold man. Shepard the OG old man. As a young and I always had to work real hard to get to the coins and the tokens. Never pay mine to the broken, unopened humans. Check for yourself. It's an iron on the sky. Coming to you live and direct from the studio. 6 a.m. You don't know how the DJ them go. Turn up the thing. Boy. Shut up. You don't know.
Hold on the nigga. I don't mind girl, I go there with the flavor. Let me follow shit wrong on the corner. Better say she a live wrong and check her. Way away from my man take her. Put me back out this house here later. Scatter, scatter. Live wrong and check her. Way away from my man take her. Put me back out this house here later. Scatter, scatter. Run me, no see me enemy. I wish see me burn. Thank you.
Welcome to Queer Core on CKUT 90.3 FM, Montreal's only queer culture show that bridges any divide between queer sex and radical queer politics. Due to the fabulous nature of queer experience, tonight's program may contain sexually explicit or coarse language. You've been advised.
You're listening to Queer Core on CKUT 90.3 FM, and it is Monday, November 1st, 2021. Today you'll be listening to the audio from an official response interview to the proposed Bill 2 held last week on October 26th by CUTV Concordia. You'll hear the Center for Gender Advocacy's Celeste Trianon talk about how this incredibly transphobic bill will endanger trans people in Quebec. You'll then hear a short documentary about historical trans trial events in Quebec, created by CUTV. Keep it locked on CKUT 90.3 FM. Celeste, thank you for joining us.
Thank you, and thank you for inviting me. And I'm really here just to talk about the elephant in the room. It's called Bill 2.
Bill 2. So for some of you who have not heard the news last Thursday, Celeste, can you tell us a bit about the background of what this is about?
So let's just say this bill is an enormous regression, and I've dubbed it the most transphobic bill in the entire history of not just Quebec, but Canada as a whole. It is truly the most regressive bill on this end in the entire country.
So one thing that I learned from working on this video about the history of the trial is that there have been a lot of advances that have been made over a long period of time to advance the rights of people, specifically in Quebec, where it's notorious that trans rights are way behind rights of trans folks everywhere else in Canada.
Yeah, but actually Quebec once upon a time was ahead. The ability for trans people to change their gender marker was first introduced in 1978. Albeit with lots of requirements, of course, and trans people have been protected from discrimination on the basis of sex since 1998. So there has been lots of advances both at the legal and judicial levels a long time ago, but